Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné aujourd'hui de Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Alors cette semaine, SmackDown avait lieu le 21 mars 2017 à Uncasville, célèbre ville du Connecticut. Et au menu, AJ Styles a dévalisé le stand de goodies WrestleMania numéro 33 en avant-première. Miz et Maryse nous ont offert des extraits inédits de Total Bella. Randy Orton a l'immense honneur d'affronter le Baron. Et la division tag team est vraiment, vraiment, vraiment de retour, puisqu'ils nous ont proposé un match de championnat. AJ Styles, qui vient parader auprès de Daniel Bryan, qui avait tenté vainement de le virer la semaine dernière, mais c'était sans compter l'intervention de Shane, le frère caché de Shane.
Ils sont plusieurs en fait, ça expliquerait beaucoup de choses.
Il faut bien que quelqu'un prenne en charge la nouvelle brand de la WWE, on en parlera plus tard. Shane McMahon, qui a officialisé le match avec AJ Styles à WrestleMania. AJ donc qui vient parader. Et Daniel Bryan lui dit, écoute mon coco, t'as de la chance parce que Shane justement n'est pas comme les autres McMahon, qui eux sont plutôt du genre à enterrer 15 fois un mec sans mesure, les gens qui sont sur leur chemin. Ceux qui suivent Raw, ou en tout cas qui écoutent chaque semaine Catch Pro, les séquences interminables de 15 minutes avec la Stéphanie. Connaissent bien le refrain. Alors, ce soir, il dit non, effectivement, vous allez régler vos comptes d'homme à homme à WrestleMania. AJ Styles, qui poursuit sa parade, puisqu'il vient cette fois-ci sur le ring pour se vanter à nouveau de ses actes de la semaine dernière, quand il a passé à travers la vitre arrière de la voiture le visage de la tête de Shane McMahon. Oui. Il dit, écoute, toi, mon vieux, tu m'as fait passer tout un tas d'épreuves, et ben moi, je t'ai fait passer à travers la vitre de la voiture. Vous demandez, il s'adresse au public, vous demandez pourquoi je suis content d'avoir un match contre Shane McMahon. La raison est toute simple, il y en a fait deux raisons. La première, c'est que ça lui permet d'aller à WrestleMania, il est pas con. Il a son match à WrestleMania. Et surtout, qui dit AJ Styles absent aurait dit la chute, ça aurait entraîné la chute de SmackDown. Donc tout le monde est gagnant, lui, Shane, nous, vous. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Il annonce, il prévient que ça allait être de pire en pire pour Shane McMahon. Il va une fois de plus, il compte bien le passer à tabac une fois de plus cette semaine. Il compte pas en rester là. C'est plutôt marrant parce que le mec il a eu ce qu'il voulait, mais là il va continuer à tabasser son patron.
C'est ça.
il compte l'attendre une fois de plus dans le parking, parce que ça marche bien.
Ça a l'air de bien marcher.
Ça a l'air de bien marcher pour lui. Et donc, ça va être un peu le fil rouge du show bleu avec, tous les quarts d'heure. On va avoir des petites nouvelles de AJ Styles, si oui ou non, il va réussir à mettre la main sur Shane. Ça va durer donc tout l'épisode, pour rien, puisqu'à la fin du show, alors on a une petite séquence sympa où une limousine approche, on pense que ça va être Shane, mais en fait ce sont Heath Slater et Rhino qui descendent de la voiture.
Tu vois, Gestel qui s'était préparé à faire une embuscade. Là.
Voilà, l'embuscade, et évidemment c'est toujours marrant parce qu'on a la séquence qu'on avait eu la semaine dernière avec René Young qui l'interview et qui le laisse faire. Tout le monde le laisse.
Oui, y a pas de problème.
Gestal monter ses guet-apens. Mais Shane parvient à atteindre le ring à la fin du show. On fait avance rapide sans avoir croisé le chemin d'AJ Styles. Il est passé par une porte dérobée ou juste par la porte. Il est peut-être venu avec un Uber, j'en sais rien, ou en bus, en métro, que sais-je. Peut-être. Je connais pas Uncasville, le système de transport public d'Uncasville. Peut-être en Vélib.
On ne sait pas.
Et il invite donc AJ Styles à venir le rejoindre sur le ring, puisqu'il comptait, il le cherchait. S'ensuit une longue séquence où AJ Styles donc repart depuis le parking pour rejoindre le ring. Ouais. Donc toute cette séquence est filmée. Alors écoute,
il nous a fait une Goldberg là.
Et j'ai noté ça. Je me dis, il manquait la musique de Goldberg. Je pense qu'il y a un montage à faire avec cette séquence là. Si tu rajoutes la musique de Goldberg. Je me suis demandé s'il devait pas y avoir une pub qui était prévue à ce moment-là, parce qu'en plus, à ce moment-là, Shane, en fait, ne fait aucune promo. Il attend patiemment, sagement, la venue des AJ Styles. C'est vraiment, vraiment, vraiment long. Il nous a gratifié encore d'un putain de récap, hein, Shane McMahon. Il a encore expliqué pourquoi on en était arrivé là.
Ouais. C'est important.
On s'est un peu fait chier. À ce moment-là, je vous rappelle, hein, qu'on est à la fin du show. Ça retombe un petit peu. AJ Styles parvient et à ce moment-là il est dans la gorilla position.
Encore une fois.
On se dit il va se raviser, mais non, il y va, AJ Styles, hein, toujours booké comme ça, mais sans peur ni reproche. Il s'avance, mais il a une stratégie puisque en fait il annonce qu'il compte s'excuser. Voilà, il s'excuse auprès de Shane. Il est allé trop loin. Il veut enterrer la hache de guerre avant leur affrontement. Il veut. mais évidemment, Shane n'en croit pas un mot. Piège ou non, il n'attend pas d'avoir la réponse. Il fonce sur AJ Styles. S'ensuit un brawl à l'extérieur du ring. AJ se retrouve sur la table des commentateurs. Au passage, moral à zéro n'est toujours pas de retour. Hein. Ne va pas pour lui. AJ Styles est donc offert, le corps d'AJ Styles est offert à Shane McMahon qui monte en haut du turnbuckle et on devine évidemment la suite. Énorme descente du coude du commissionnaire de SmackDown qui pulvérise la table et AJ Styles en même temps. L'épisode se termine avec voilà ce plan large. AJ Styles est au sol, pulvérisé. Shane McMahon et à moitié relevé, le doigt pointé en direction du fameux signe de WrestleMania. Le rendez-vous est pris. Giscal, qu'as-tu pensé de ce fil rouge, hein, séquence d'ouverture, de fermeture, impliquant donc AJ Styles et Shane McMahon?
Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que on a renversé un peu la dynamique de la semaine dernière. Cette fois, c'est Shane McMahon qui a eu le dernier mot dans une partition beaucoup plus héroïque, hein, tandis que AJ Styles avait triomphé la semaine dernière comme un salaud qu'il est. Donc, on installe vraiment, hein, ces deux positions de plus en plus fermement, hein, ce travail qu'on avait mentionné en amont, d'arriver à renverser un peu les alignements. On voit que AJ Styles quand même, il faut lui donner du crédit, il est quand même assez fort au micro et tout pour arriver à neutraliser un petit peu les résidus de chant qui lui restent encore. On sent que il y a encore un petit peu le public qui chante AJ Styles quand il prend le micro, mais il arrive quand même plutôt bien à tuer ça avec des petits détails, des petites phrases qui touchent bien. Donc tu l'as dit, hein, sa promo d'ouverture était vraiment pas mal, j'ai trouvé.
D'ailleurs, il avait justement, je vous avais parlé des goodies dans le menu. Ouais. En fait, il a la casquette WrestleMania,
la casquette de golf, la visière plutôt.
Oui, voilà.
Il a le t-shirt sans manches WrestleMania au lieu de son t-shirt habituel. Des petites touches qui font la diff, qui montrent que pour lui son objectif est rempli. Il a WrestleMania, il est content, il est presque comme un petit foufou. Il est allé acheter ses t-shirts et tout. Donc c'est assez marrant. Moi je sais pas, j'ai bien aimé toute la dynamique sur l'épisode, à part comme tu l'as dit, c'était très 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 long à la fin. Par contre, ça se finit sur un OMG moment là, avec Shane qui encore une fois c'est sa qualité première, hein. Il donne de sa personne malgré
il se jette corps et âme, mais surtout
père de
corps.
Famille alors on pourra rétorquer que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire à 10 jours de WrestleMania de tenter un spot comme ça, parce que bon.
Disons qu'il avait déjà l'œil bien poché là, il arbore un énorme coquard noir. Donc là, oui, effectivement, c'était un peu risqué, comme tu l'as dit.
C'est un petit peu dommage de se blesser. Par contre, ce que ça sous-entend probablement, c'est que si nous ont lâché un spot comme ça en weekly, c'est que il va y avoir encore plus lourd à Mania. Donc bon, en espérant qu'il aille pas comme jusqu'à l'année dernière à faire ce qui était pour moi absolument insensé. Enfin bon, j'espère que ce sera pas ça. Mais bon, en tout cas, ça promet encore une fois un match ultra violent, ultra spectaculaire. Donc écoute, bah moi ça me va, et encore une fois je le répète par rapport à la semaine dernière, mais c'est en train de supplanter un petit peu pour moi les autres programmes à SmackDown comme étant bah la feute qui m'émoustille le plus, on va dire, hein, parce que bah ils mettent les petits plats dans les grands, hein, c'est costaud quoi.
Ouais, écoute, effectivement, je te rejoins complètement. Et oui, le match avec face à AJ Styles sera totalement différent de ce qui s'est passé avec Undertaker. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de spots impressionnants, ou en tout cas un match un peu mieux rythmé. Il y aura pas le gros, on n'aura pas forcément besoin d'un énorme spot comme il y avait besoin pour sauver le match avec face à Undertaker, où il n'y aurait pas eu ça.
Non, parce que je pense que
AJ Styles, rien du tout, quoi.
AJ Styles va vendre suffisamment, enfin, va être tellement bon, je pense, dans le selling que du coup, ça fera l'affaire.
Donc, on enchaîne avec un de nos chouchous. Ici, au supplément, il s'agit du Baron qui, lui aussi, se pointe dans le bureau de Daniel Bryan, qui reçoit un tel votre mère. Vous pouvez, tous les mardis, de 14h à 17h, voir le maire de votre ville pour aller lui parler de ce qui va, de ce qui va pas. Et bien, c'est pareil avec Daniel Bryan. Le mardi, on peut aller le voir pour voir si vous avez des réclamations à faire. Et le Baron, il en a des réclamations. Réclame tout simplement un match de championnat à WrestleMania. On avait un petit peu peur de la présence qu'allait avoir, de la place qu'il y aurait pour les matchs de SmackDown impliquant notamment toutes ces ceintures. Et ben le Baron s'en charge pour nous, puisque toc toc toc, Daniel Bryan, fais pas le con, donne-moi un match de championnat. Je pense que j'ai suffisamment intenté à la vie du porteur de la ceinture de Dean Ambrose pour que on officialise quelque chose, pour que j'arrête de devoir faire ça de façon non officielle. Daniel Bryan à ce moment-là lui dit que c'est pas trop le bon timing à la place il lui colle un match contre la vipère Randy Orton pour ce soir. Donc ce soir le Baron affronte la vipère. Alors, le match commence. Randy Orton qui tente rapidement de placer son RKO. Le Baron, ça le fait réfléchir un petit peu. Il s'est dit, oulala, il va falloir que je sois sur mes gardes. Il se rebiffe en écrasant le museau de la vipère sur le turnbuckle et vient le soumettre à toutes sortes de sévices au milieu du ring. Le Baron enchaîne alors toutes les fameuses glissades qu'il affectionne tant dorénavant, où il sort d'un côté du ring pour entrer de l'autre, mais la seconde tentative est fatale. Il se fait cueillir par Randy Orton, qui place cette souplesse, où il le retourne sur le côté de façon très rapide, suivi d'une full Nelson. C'est de tout l'arsenal de la vipère que va se manger le Baron. Le Baron n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il reprend vaguement le contrôle des débats avec son Deep Six. Malheureusement, c'est de courte durée, puisqu'une voix agaçante retentit en direction de la rampe. On se retourne, c'est évidemment Dean Ambrose sur son transpalette qui interpelle le Baron. Évidemment, il n'en faut pas plus à la vipère pour placer son RKO fatal. Diversion très drôle d'ailleurs, puisque au moment où il fait la pause, le tombé, il fait un petit salut comme ça de remerciement, si on peut dire, à Dean Ambrose, même si évidemment je pense qu'il n'en aurait pas eu besoin, en tout cas c'est ce qu'il se dit. Voilà. Ambrose n'en termine pas là, il profite tel un bon face pour coller son Dirty Deeds et valide le match de WrestleMania, puisqu'il accepte le challenge accepted. Il y aura donc un match pour le titre de la ceinture blanche à WrestleMania. On va s'arrêter là un instant, juste pour parler donc de ce match, si tu as quelque chose à dire, et surtout qu'on est content. On est content pour ce match intercontinental.
Oui, oui, exactement.
Ça va remplir le pré-show. Content. C'est bien.
C'est ça, c'est ça. Non, mais mieux vaut tard que jamais, en effet. On a fini par l'avoir. Donc on est content en tant que résident smackdownien d'avoir le titre intercontinental défendu quand même dans un match qui ne vient pas de nulle part, hein. C'est quand même une vraie rivalité entre les deux, hein. Donc c'est une bonne chose quand même qu'ils puissent défendre leur chance et puis leur ceinture à Mania, donc c'est cool. Le match, j'en pense pas grand chose. J'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel ce match. Je me suis un peu emmerdé. J'ai vraiment trouvé que c'était un match où ils étaient sur le frein à main, parce que c'est vrai que on verra un peu plus tard, mais c'est vrai que sur cet épisode, ils ont quand même fait catcher John Cena, ils ont quand même fait catcher Orton. C'est des choses qu'on voit pas forcément à 10 jours de WrestleMania. On est vraiment on est d'ailleurs bon, c'est en même temps, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Ça fait 2 semaines qu'on reprochait de pas voir des matchs des bons matchs, mais bon, en même temps, si c'est pour faire des services minimum comme ça, je trouve que c'est un peu dommage de l'avoir de l'avoir donné ce match, parce que c'était la première fois qu'on les voyait l'un contre l'autre. Et bon, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Tout va bien parce que Corbin perd, mais ne perd pas de façon clean, hein.
Seul résultat compte à ce moment-là, ouais. Enfin, la manière
perd,
en tout cas.
Oui, voilà, il perd sur une distraction, donc ça va. Et puis bah Orton, c'est logique qu'il est quand même dans une rivalité un peu plus haute. Il fallait qu'il gagne. Donc voilà, bon, pas emballé plus que ça outre mesure, mais content de l'officialisation de cette feud avec. J'aime bien ce Ambrose qui arrive, qui fout des dirty deeds, qui repart en mode complètement malade. J'aime bien ça.
Ouais, c'est un Ambrose que, en tout cas, enfin, moi perso, je préfère au bouffon de service, on va dire.
Ouais.
Évidemment, hein, de toute façon, c'est deux visages, mais là, dans cette rivalité, c'est bien. Je préfère que, à la limite, c'est mieux quand ça commence par des bouffonneries et que ça devient un peu sérieux.
Oui, voilà. Oui,
que l'inverse, que là, où ça se dégonfle. Là, voilà.
On comprendrait pas la bouffonnerie ici, vu qu'il vient de se faire quand même écraser par un chariot
élévateur. Au bout d'un moment, le mec, faut qu'il ouvre les yeux.
Il y a peut-être un moment, faut arrêter les blagues.
On continue sur Orton, puisque ce n'est pas terminé, puisqu'on le retrouve un peu plus tard en interview avec Renee Young, quand soudain les lumières se mettent un peu à déconner, hein, visiblement ouais. une petite panne.
Luke Harper, quand c'est comme
ça. Luke Harper, d'ailleurs, on profite de faire un petit aparté, on l'a retrouvé au milieu de saison poule pour annoncer que la semaine prochaine, il affronterait Bray Wyatt. Oui. Et justement, Bray Wyatt, Randy Orton, voilà. Il est pas con, il sait bien que c'est un coup de Bray Wyatt qui est en train de s'amuser avec les lumières. Tu sais, c'est comme les gamins qui n'arrêtent pas de faire jour-nuit. Tu as arrêté les conneries, oui, Bray. Et là, surgit derrière Randy Orton une armée d'homme masqué avec ce fameux masque de mouton blanc,
hey.
Celui que porte ou portait Eric Rowan, ils se saisissent de la vipère, l'offre alors à Bray Wyatt qui entre dans la pièce. Alors là, Bray Wyatt, là ça devient un peu bizarre. Bray Wyatt est équipé d'une sorte de crucifix, une croix. Une espèce de symbole assez difficile à déchiffrer. Il y a une croix rouge sur je pense qu'il faut faire un arrêt sur image. Je ne sais vraiment pas ce que ça signifie, mais là on rentre à nouveau dans un côté assez religieux, assez mystique. Il réitère ce qu'il a proclamé la semaine dernière, à savoir que il a fusionné, hein, avec l'esprit de Sister Abigail, qu'il est d'autant plus fort et que bah finalement Randy Orton, en exécutant son plan, a finalement commis la plus grosse erreur qu'il pouvait faire, puisqu'il a rendu Bray Wyatt encore plus fort. Et
qu'est-ce qu'il a fait?
Et oui, et donc ça se termine ainsi cette séquence. On rentre dans un côté totalement mystique. Bray Wyatt a proclamé chevalier de la spatule Randy Orton. ça nous promet, voilà, vraiment un côté très mystique là qui s'offre à nous pour WrestleMania. Nous aurons donc 2 matchs de l'Undertaker dans 10 jours. Qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence? Finalement, c'est la première fois qu'ils recroisaient leur chemin physiquement, les deux, depuis un bon bout de temps, parce que même quand il y a eu la trahison, ça s'était fait par écran interposé.
Oui, c'est vrai.
Vraiment la première fois où les deux se retrouvaient face à face.
En effet, c'est la première fois. C'est
retour de la Bray Wyatt Army.
Oui, Bray Wyatt Army avec, comme tu l'as dit, hein, le masque de mouton blanc, cher Eric Rowan. Et il faut noter qu'ils étaient tous habillés de la même façon, avec une sorte de combi.
Des boueurs.
Exactement comme Eric Rowan.
Ouais.
Ce qui n'est probablement pas anodin. On avait mentionné la possible réintégration de Eric Rowan à un moment ou un autre Dans cette histoire, écoute, je pense que cette petite touche pourra peut-être être porteuse de révélations futures. Donc, on verra ça. Et donc, tu fais bien de le souligner, c'était la première fois qu'ils recroisaient leur chemin. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus violent. C'est vrai que le
Oui.
côté, ce qui s'était passé la semaine dernière, on voyait un Wyatt possédé qui se baignait littéralement dans les cendres de Sister Abigail, ou on sait pas, ou en tout cas de son ancienne maison et du terreau dans lequel elle était enterrée, tout ça, machin. Donc on s'attendait, moi c'est vrai que je m'attendais à le voir revenir et à semer vraiment le chaos sur Randy Orton, le défoncer, tout ça. Après ce segment, je me demande si finalement c'est peut-être même pas mieux cette sorte de violence psychologique de lui montrer que, parce que là, Randy Orton était à sa merci, il aurait pu en faire absolument ce qu'il voulait. Et le fait qu'il ne lui ait rien fait, enfin qu'il l'ait presque épargné entre guillemets, qu'il ait repoussé la sentence à dans 10 jours, je trouve que d'un point de vue psychologique, c'est une ficelle un peu narrative qui est pas mal, je trouve, voilà, de vraiment de rentrer. Finalement, Randy Orton est rentré dans la tête de Bray Wyatt pendant des mois. Maintenant, Bray Wyatt lui rend un peu la monnaie de sa pièce sur le plan psychologique. Donc, au lieu d'un gros beatdown des familles en coulisses, finalement. Après coup, je me suis dit, c'est pas mal, c'est vraiment vicieux. Voilà, il l'a laissé complètement impuissant et nu devant ce nouveau Bray Wyatt. Donc bon, le segment était encore une fois complètement délirant et complètement barjot. Donc il faut, c'est dans la lignée, hein, il faut. Si,
On
si
a
vous n'avez pas
retrouvé
aimé,
effectivement le Bray Wyatt avec sa chorale de gamin.
ça, voilà. Donc si vous n'avez pas aimé les précédents, vous n'avez probablement pas aimé l'épisode de cette semaine non plus sur cette rivalité. Moi, je continue à être embarqué.
Ouais.
Après, un bémol quand même, je trouve. C'est intéressant, hein, ce qui se passe depuis 2 semaines avec ce nouveau Bray Wyatt qui émerge en vue du match pour WrestleMania. Mais n'empêche. Après, je pense que c'est. On va faire une petite digression sur l'épisode dans son ensemble. Je pense que c'est un peu. C'est un peu le. Cette histoire pâtit un petit peu, finalement, du booking d'urgence qu'il peut y avoir sur d'autres storylines dans l'émission depuis 2 semaines. Parce que, en fait, cette histoire, ça y est, elle est faite. Depuis le visuel incroyable de la cabane qui brûle, on ne pouvait pas aller plus haut que ça. C'était fantastique, aussi bien
Oui.
dans le coup de théâtre que dans le visuel et tout. Donc à partir de là, j'ai l'impression un petit peu que c'est pas que ça s'essouffle, hein, parce qu'il continue à faire des choses. Mais c'est le problème, c'est que comme il nous propose à côté de ça plein de trucs avec Cena Miz qu'il fallait booker en urgence, avec Shane AJ qu'il fallait booker en urgence, avec maintenant, tu vois, Ambrose Corbin aussi qui ont eu
Oui, voilà.
leur lot d'activités.
Oui.
Le fait, c'est que le focus maintenant part sur le reste de la carte qui avait vraiment
C'est
besoin,
vrai.
qui avait besoin d'être booké fort. Il fallait qu'on boucle le reste des rivalités. Et du coup, en fait, cette histoire glisse tout doucement au second plan un
Ouais.
petit peu, et c'est un petit peu dommage.
Ouais. Bon, après, c'est un mal pour un bien, comme tu le dis. Il faut tellement booker d'autres matchs ou d'autres divisions, mais c'est vrai que ça reste quand même une grosse affiche. C'est quand même pour la ceinture suprême.
C'est pour ça
Donc.
ce que je reproche derrière ça, c'est peut-être finalement la gestion des autres rivalités pendant les 2 mois qui ont précédé.
Ah bah ça.
Parce que du coup, comme il y avait un tel focus là-dessus, forcément c'était l'histoire du moment, et quand ça a pété fort. Mais maintenant, c'est dommage que ça retombe un peu à 3 semaines de Mania. Le timing général un peu de la gestion de la carte à SmackDown aurait peut-être mérité d'être un peu plus travaillé, mais bon, voilà.
Écoute, tu parlais de John Cena qui effectivement a un match avec sa chère et belle Nikki face au couple Miz-Maryse à booker, même si le match a déjà été officialisé, hein, mais là il faut vraiment faire monter la rivalité entre les quatre encore plus haut si c'est possible. Ce soir, donc on avait une parodie de Total Bella,
Incroyable.
incroyable. Hein, donc c'est cette émission hein, sur le network et la chaîne E là, qui s'intéresse plus particulièrement, voilà, aux sœurs Bella et à leurs chéries respectives, puisque tout le monde pendant toute la durée de l'émission, tout le monde dort chez, enfin vit chez John Cena
C'est ça.
avec les règles
Ouais. Il
que.
a grand, hein.
Ouais, c'est dans le manoir de John Cena, donc avec toutes les règles que ça implique, parce que bah effectivement John Cena est plutôt à cheval, assez rigoureux là-dessus. C'est d'ailleurs sur ce point-là que Miz et Maryse ont joué. Donc en fait, l'émission, on entre. Ça me rappelle justement cette émission, comment ça s'appelait, où tu découvrais les maisons des stars. Ça passait sur MTV, je pense.
Mais c'est pas Cribs, justement?
Cribs. Ah non, d'accord, ok. Oui, c'est le nom dont tu m'avais donné en
Ouais.
off, juste avant le lancement de
Tu
l'émission.
m'étonnes
Effectivement,
pas.
on découvrait les maisons de nos stars préférées.
C'est
Et donc
ça.
là, donc le Miz est grimé en John Cena et Maryse interprète non pas un mais deux rôles, Brie et Nikki. Donc on est à ce moment-là dans le jardin de John Cena et Nikki et Brie sont en train de se chamailler sur leur catchphrase. Nikki sent que John va lui faire sa demande, hein, la fameuse demande en mariage qu'elle attend tant
Oui.
et est-ce qu'on l'aura ou non à la WrestleMania.
C'est pas, on ne sait pas.
John débarque sur son theme song. Quand je dis John, c'est évidemment Miz, hein,
Oui.
habillé en John Cena. Il dit qu'il a une demande effectivement à faire. Donc là, Nikki n'en peut plus. Elle se dit c'est la demande. Alors ça joue beaucoup sur le vocabulaire anglais. Donc tout ne passera
Oui.
pas forcément à la traduction. Mais là, voilà, il a une demande à faire. Et en fait, il demande basiquement à Nikki de retirer ses pieds de la table parce que c'est une. C'est contre le point numéro 48 du règlement de John Cena. Et donc voilà, et ainsi de suite, comme ça on va avoir plusieurs séquences tout au long du show où à chaque fois il réprimande ou félicite Nikki pour sa bonne ou sa mauvaise conduite, et à chaque fois en teasant la fameuse demande en mariage, il dit qu'il va lui offrir un diamant, un diamond, et en fait c'est pas un diamant, c'est un Diamond Dallas Page Yoga DVD. Donc il lui offre un DVD de DDP. Après il dit qu'il va lui emmener, enfin lui offrir un
Lui offre
ring.
un ring.
Donc là, on voit le truc évidemment revenir
Mais
et il lui
là.
offre un jouet, un ring. Alors, de Raw, en plus, il n'y a même pas de ring SmackDown qui lui offre un ring. Et ça va continuer ainsi de suite tout au long du show avant que John Cena et Nikki Bella ne rejoignent le ring car ce soir, John a un match face à Fandango. Et oui, Fandango.
Mais oui,
Aussi
Fandango.
incroyable que ça puisse
Profitez-en.
paraître, mais pour les gens qui ont justement suivi la fameuse nouvelle brand, la nouvelle fédération lancée par la WWE, ce n'est pas si incongru que ça, puisque Fandango est l'acolyte de John Cena dans la fameuse série comique dont nous ont parlé nos copains de Catch Up Pro
Oui.
cette semaine, qui met en avant une fausse fédé old school, où en
Ouais,
fait
c'est
John
ça.
Cena et Fandango sont les deux commentateurs, et on sent qu'ils ont pris beaucoup de plaisir les deux là, parce que franchement il y a eu à avoir qu'une prise à chaque fois.
Ah
Ils ont
ouais,
du mal
exceptionnel.
à retenir leur fou rire. D'ailleurs, JBL au commentaire, il fera référence plusieurs fois à Lance Catamaran et c'est comment? Chad
Oui, c'est ça.
Shatterfield, donc les deux faux commentateurs. Donc c'était plutôt bien vu. Il y avait un petit clin d'œil pour vraiment ceux qui suivent, qui ont l'appétit de bouffer tout ce que la WWE offre en ce moment. Évidemment, hein, c'est un squash puisque John Cena va rapidement se débarrasser de Fandango. Fandango qui n'est pas venu seul puisqu'il est venu accompagné de son acolyte, un hein, Tyler Breeze, qui lui est venu en Brizzy Bella, donc
Brizzy Bella, c'est ça.
déguisé en sœur Bella pour
Ouais.
continuer vraiment dans la provocation jusqu'au bout. Hein. Il est venu vraiment avec sa perruque
Ah bah,
noire,
oui, la petite
la
culotte,
petite
tout, je
culotte,
me
les
dis.
prothèses mammaires qui sortiront de leur place quand Nikki viendra spirer Tyler Breeze, Brizzy Bella.
Brizzy Bella, s'il te plaît.
Donc hein, le couple principal qui nous rejoint un peu la même partition que la semaine dernière puisqu'ils vont coucher les deux Brizango ensemble, hein, Double A et puis le comment ça s'appelle?
Rack Attack
Rack Attack
2.0.
2.0. Voilà, le couple finit triomphant et c'est ainsi que se termine la séquence dédiée à cette fameuse rivalité
C'est ça.
pour WrestleMania.
C'est ça. Bah, c'était extra. C'était extra. Moi, j'ai trouvé ça super drôle. Je me suis marré de bout en bout. Ça fait plaisir parce que tu l'as bien dit. Tous les acteurs de cette rivalité, je pense, enfin, se prennent beaucoup de plaisir et ça se voit à jouer tout ça à l'écran. Donc c'est très drôle. Il en faut des rivalités où on se marre un peu et on se détend. On a suffisamment de rivalités sérieuses ou mystiques autour. Donc je trouve que ça donne un bon équilibre. Il faut tirer quand même un coup de chapeau à Fandango et à Tyler Breeze. Et surtout, j'ai envie de dire à Tyler Breeze, hein, parce qu'il y a, je pense qu'il doit pas y avoir beaucoup de trucs plus castrateur ou émasculant, comme ça se dit pas, hein, mais comme tu as pu le dire en début d'émission, si ce n'est peut-être, je pense que la chose la plus castratrice après ça doit être Stéphanie McMahon en Arrow, c'est tout.
Qui te met une gifle.
Mais sinon, en effet, de se grimer à ce point-là, et surtout qu'il faut voir les mimiques et l'attitude qu'il avait, il a joué le rôle vraiment à 200%.
Ah oui.
Et se prendre un spear par Nikki Bella en plus derrière et perdre machin et tout et taper sur le STF, enfin bref. Donc il faut lui tirer un coup de chapeau parce que quand même il a fait du super boulot avec ce qu'on lui a donné. Sinon, d'ailleurs au passage le match entre les deux était plutôt fun et tu fais bien de souligner voilà le South Power Wrestling là avec les deux compères qui
ouais.
on les voyait plein de sourires complices pendant
ouais,
le match.
John Cena s'est pris plein de contredanses hein, parce que c'est la Fashion
ouais,
Police.
Évidemment, qui est-ce qui porte des jorts en 2017 un ticket pour toi. Donc bon, c'était très drôle. Et puis alors évidemment, bon bah voilà, ces segments, il faut que vous les voyez. Hein, c'est parodie donc de Total Bella. C'était
avec
vraiment
Robo
exceptionnel.
Cena qui dit I love you, Nikki.
Ouais. Est-ce que c'était bien ou pas?
Ouais. On la refait.
Et donc voilà notre chambre, mais bon ça c'est pas la chambre où on dort, hein. C'est la chambre là où on montre notre amour à la télévision parce que moi je dors au bout du couloir et Nikki Bella elle dort à l'étage d'en dessous. Bon c'était assez extra, j'ai beaucoup rigolé donc voilà bon écoute c'est la feu de comédie de SmackDown je maintiens. Qu'à mon avis, on va beaucoup s'amuser à WrestleMania avec ça.
Ouais. Et en plus, je trouve, hein, toi, c'est une feud comique, mais avec un fond, enfin, c'est parti de quelque chose
Par
qui ne
contre,
l'était pas.
Oui,
Et
il y a une animosité qui est réelle, c'est
y a
ça,
une animosité
exactement.
qui est réelle, et c'est en quoi je trouve que c'est une variation sur le registre de la comédie qui est assez intéressant.
Ici, en effet.
En tout cas, ça marche beaucoup sur moi parce que bon, bah, j'adhère aux crétineries qu'ils nous proposent, mais. Il y a aussi derrière toute l'animosité ancrée depuis des
Ça, c'est
années
important.
hein, entre le Miz et John Cena qui apporte justement cette rivalité. Et là, c'est le registre comique, mais ça c'est nourri derrière par une rivalité profonde entre les deux qui fait que on peut pas, c'est pas vide de sens ou genre on fait juste du pipi caca. Enfin voilà, façon New Day ou.
Non, mais je suis d'accord. En ce sens, d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec à l'époque où il y avait la feud entre Le Rock et John Cena, où ils essayaient beaucoup de jouer sur l'aspect justement très comédie en bas de la ceinture
Ouais.
entre les deux, hein, par promo interposée. Là, je suis d'accord. En effet, je trouve que c'est plus intelligent parce qu'on singe, enfin, on caricature des aspects de la personnalité de John Cena sur lesquels d'ailleurs il ne se renie pas lui-même, il
Non,
les
il
assume,
sait
il
qu'il est
les
comme ça,
assume,
hein.
il sait qu'il est comme ça, il l'assume complètement. Et donc, du coup, le fait que le Miz et Maryse se moquent de ça, ça fait vraiment d'eux des. Enfin, c'est de la méchanceté gratuite, mais qui est attendrissante, c'est drôle parce que voilà, c'est tellement surjoué. Donc, du coup, en effet, je trouve que c'est plus habile que de se moquer de la couleur du t-shirt de John Cena
Ouais.
ou de parler des Fruity Pebbles, des trucs comme ça. Je suis d'accord que c'est mieux.
Exactement.
Et ce fond d'animosité est réel, tu fais bien d'en parler, ajoute évidemment un intérêt évident au match. On ne peut pas juste se contenter, surtout entre deux mecs qui sont de calibre main event, on ne peut pas se contenter juste de blagues. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je vous conseille d'aller voir Talking Smack de cette semaine, on a eu beaucoup de promos du Miz à Talking Smack hein, pendant cette rivalité, des promos très intenses, borderline shoot. Et là, on a eu une promo. Très très shoot aussi hein, de John Cena à Talking Smack qui est vraiment extra qu'il faut aller voir où il n'a fait que interpeller le Miz à travers la caméra en l'appelant Mike et donc en fait tout l'angle de la promo c'était écoute Mike continue de faire voilà continue de faire ce que des dizaines de personnes ont fait avant toi continue de te moquer de ma façon d'être de mon code de mes catchphrases de mon code d'honneur tout ça machin. Il te reste 10 jours, vas-y, amuse-toi, éclate-toi, c'est très drôle. D'ailleurs, John Cena lui dit, c'est très drôle ce que tu fais, j'ai beaucoup rigolé en regardant ta vidéo. Amuse-toi, il te reste 10 jours, éclate-toi, c'est ton moment à WrestleMania, je te conseille de bien t'éclater parce qu'après,
C'est moi qui
après
vais t'éclater.
Mania, après voilà, après Mania, je te renvoie, je te renvoie à la case départ, je te renvoie faire tes émissions de télé-réalité, Mike, patati patata et tout, et moi je continuerai à être John Cena, à être moi-même, et voilà. Et cette promo était vraiment pas mal dans un style différent, donc je vous conseille d'aller voir.
On enchaîne, si tu veux bien. On a vu beaucoup de filles, de transgenres, de travestis dans cette séquence. Yeah, voilà, on est pour, voilà, il faut qu'il y ait des toilettes pour tout le monde. Hein. Faut arrêter de, voilà, les toilettes de, comment ça s'appelait, Ali McBeal. C'était des toilettes mixtes. Bah, peut-être qu'ils font ça aussi à WWE. Des toilettes mixtes. Pour que Tyler Breeze puisse aller faire pipi où il veut. Sauf que là, c'est la division féminine. Donc, il n'y aura des femmes et que des femmes. Puisque ce soir, on a un match entre Becky Lynch et Carmella. Avec Natalia en commentaire. Mais ça part en couille direct. Hein, puisque Natalia, au bout d'une minute, s'en prend à Carmella. Provoquant ainsi le DQ. Le DQ, monsieur. Hein, gagné par DQ. puis c'est Mickey James hein, qui vient en courant s'y coller. Et enfin, la magnifique Alexa Bliss qui vient calmer tout le monde puisqu'elle est à la fin de la séquence. Hein, la seule debout à trôner au milieu du ring brandissant sa ceinture. Fièrement qu'elle défendra donc contre tous les catcheuses valables disponibles à WrestleMania.
Vous avez bien entendu.
Voilà, donc rien à ajouter puisque rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. Non. J'ai gardé, je trouve, quelque chose de très important pour la fin. Il s'agit de la division tag team puisqu'écoute, la semaine dernière, on s'en rappelle. Eh ben écoute, c'était n'importe quoi, c'était de la merde.
Ah bah, c'était une honte.
Puisqu'on avait droit à un match, on avait droit à une séquence de Shane McMahon avec des morceaux de match à l'intérieur. Eh ben écoute, ce soir, ils nous ont sorti le grand jeu pour nous faire donner tort, puisque la semaine dernière, je t'ai dit, on va mettre un petit mouchoir sur la division tag team et on va attendre le lendemain de WrestleMania pour que ça se décante et qu'on retrouve enfin ce qu'on aimait il y a quelques mois dans cette division. Eh ben écoute, ils nous ont pas écoutés, ou en tout cas ils nous ont écoutés plutôt pour nous faire démentir, puisque ce soir on a carrément un match de championnat entre les American Alpha et leurs rivaux les Uso, donc une grosse domination des American Alpha hein, avec un Chad Gable qui enchaîne les prises de soumission ne donnant aucun repos aux frangins Uso. On a vraiment là une autre il ne joue pas le rôle en tout cas en cette première partie de match on n'a pas un Gable qui subit comme il peut faire assez souvent. La coupure pub évidemment reset tout ça hein, ça on en a suffisamment parlé.
Coupure pub magique.
Tout le monde est revenu à son coin, les méchants ont repris le dessus, on ne sait pas pourquoi.
toujours.
Donc ils reviennent en plaçant une énorme guillotine. Chad Gable reprend alors son fameux rôle de victime hein, dont on parle étant incapable de passer le relais à son partenaire. Il se fait détruire hein, méthodiquement par les Samoans. Malgré toutes les roulades du monde, hein, il ne parvient pas à taguer Jason Jordan. Il finit même en cochon pendu. La face écrasée violemment par un des frangins Uso. C'était assez impressionnant ce spot. Mais malheureusement, Jay prend trop son temps pour finir ce qu'il a commencé. Et le tag est enfin fait. Jason Jordan est en feu. C'est Suplex City à la Jordan. Electric Chair. Donc la fameuse nouvelle. Enfin. La prise, finish, la Tower, comment ils appelaient ça, Tower Doom,
Tower of Doom, ouais, je pense,
Mais malheureusement, donc mise en place, malheureusement, ils se font sécher par Jimmy. La machine s'emballe alors. C'est là où vraiment ça bascule, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on va pas en finir là. Gable finit séché à son tour. Finisher des Uso. Mais Gable se relève, c'est un enchaînement de folie qui se termine par un low blow sur Jason Jordan. On se retrouve à l'extérieur du ring plusieurs fois. Jason Jordan en fait se prend un coup de corde par un des frangins Uso. Ouais. Il s'écroule par terre. En général, on ne se relève pas. Moi, je sais que quand ça m'arrive à la salle, je ne me relève pas. 1, 2, 3, nouveau champion. les Usos, champions tag team de SmackDown, dans un match de 15 minutes complètement fou, où on a vraiment retrouvé tout ce qui fait que cette rivalité entre les deux est très bonne, et surtout l'alchimie, vraiment l'alchimie.
C'est ça,
et ce,
surtout.
L'histoire, on a vraiment... Écoute, j'ai l'impression de voir un match, bah, la division tag team à NXT en fait. Ce que NXT arrive à proposer avec leur division tag team, où on a vraiment des du storytelling dans le ring.
Ouais.
Et voilà, ça fait des semaines qu'on n'y avait pas droit. Et en plus, là, alors, nouveau champion, ça, on va peut-être pouvoir en discuter.
Ah oui,
ce raid d'American Alpha.
Bah,
je pense qu'on est beaucoup surpris. Déjà, cette tenue de match était surprenante, déjà à la base. Un match de championnat à 10 jours, on dit les mecs, c'est en balise posée, ils veulent pas s'en occuper pour Western Mania.
Voilà, c'est histoire d'eux. Et comme tu dis, victoire surprenante parce que bah, on est plus, bah, maintenant je sais plus si on est plus à ça près parce que il y a 12, je sais pas si il y a 12 matchs d'officialisés pour Mania pour l'instant.
Ah
12.
Oui, d'accord.
si jamais vous rajoutez la revanche, ça, putain, bah, moi je ne sais plus, je sais plus. Mania va peut-être être sur 2 jours, je sais plus à quoi m'attendre, je sais pas. Enfin bon, toujours est-il que oui, cette victoire est très très surprenante. Malheureusement, elle scelle ou elle ne scelle pas d'ailleurs. On n'est plus à l'abri de nos surprises maintenant. On n'est plus au bout de nos surprises, pardon. Elle scelle hein, pour le moment un règne assez oubliable hein, quand même des American Alpha hein, qui seront un
les American
peu passés. Oui, voilà, exactement, qui seront un peu passés à côté de ce premier règne de champion pour eux.
Pourri.
Voilà. Par contre, voilà, un match exceptionnel qui, en tout cas, lance de la meilleure des façons possibles les Usos vers une domination sans partage de la division tag team. Un match extra. Alors, je ne sais pas si. Alors, voilà, moi, j'ai trouvé ce match vraiment superbe. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu un match tag team qui m'avait autant enthousiasmé et scotché à mon écran comme ça. Mais je ne sais pas si tu as la même analyse que moi. J'ai un peu l'impression que, en fait, ils ont profité ou en tout cas, ils ont joué sur. Tout ce qui faisait de plus chiant dans leur match précédent pour nous surprendre en fait parce que finalement les matchs des American Alpha par le passé étaient tellement stéréotypés, entendus et super enfin voilà, Chad Gable dominé, ils reviennent, Jason Jordan, 3 souplesses, boum, on n'en parle plus. C'était tellement ça que j'ai l'impression qu'en fait ils ont intégré ça dans le booking du match pour faire en sorte de nous surprendre à chaque fois, pour nous dire non, ce sera pas la même merde cette fois-ci, vous verrez, ce sera pas aussi chiant.
Ouais. Et c'est là chez lui où tout bascule, c'est justement après cette séquence avec Jason Jordan.
Exactement.
Où il n'arrive pas et là tu te dis et tu repars pour 7 minutes de match.
À chaque fois, toutes les 3 minutes, j'étais là. Ah putain, c'est pas fini. Ok. Ah bon, bah d'accord. Bah, ça veut dire que c'est fini là-dessus. Ah non, putain, c'est pas fini. Ah bon, ok. Bah, du coup, ça veut dire que c'est fini là. Non, c'est toujours pas fini. Bah, donc, c'était vachement bien fait. C'était très, très, beaucoup d'alchimie, très dynamique. La définition même d'un super match pour le titre tag team entre deux équipes spectaculaires, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va pas dire
ouais.
Le contraire.
Et finalement, bah écoute, on retourne là où on aurait dû être, où on aurait pu être. Il y a quelques mois où on s'attendait à ce que les Usos prennent la ceinture et que les American Alpha aillent les chercher par
en
chasse, et cette position de challenger qui aurait permis de construire une relation avec le public, parce que non seulement on les a pas vus, mais en plus avec le public, bah ça n'accrochait pas, ne les voyant pas ayant des matchs stéréotypés, les fameux gauntlet match dont on a parlé Hank dans Catch Up Pro, parce qu'ils en ont profité pour taper sur SmackDown les salauds. Non mais attendez. Mais bon, on peut pas leur donner tort. 10 points pour Gryffondor, mais là, voilà, on retourne à voilà, on aurait dû être. En fait, on avait sacrifié la division tag team pour la rivalité Randy Orton-Bray Wyatt.
Oui, complètement. Oui.
Hein et après, elle s'en est jamais remise en fait, cette division tag team, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était des mois.
Oui, sensiblement, c'est ça. Après, il va falloir voir.
Il y a eu le plaisir, on va dire, de voir l'American Alpha emporter la ceinture, et derrière, que dalle.
Oui, et encore, on se souvient, c'était une victoire un peu à contre-courant, parce que
évidemment.
On avait l'impression qu'elle intervenait un peu tard.
Oui, tu dis, bon, ok, cool, ok, voilà, American Alpha, c'est sympa, et puis derrière, on les voyait même pas, et là, donc voilà, les Usos, on leur donne la ceinture, une ceinture qu'ils auraient dû ou pu avoir à l'époque, et là, avec l'American Alpha qui vont redevenir challenger, alors, jusqu'où iront-ils, ça, on ne sait pas.
La question.
La question se pose, mais je s'ils se démerdent bien, et je pense, j'espère qu'ils vont bien se démerder, tout le monde va y gagner dans cette histoire, en tout cas dans la division tag team, parce qu'ils vont faire des super champions, quoi. Ils sont repartis, ils avaient la ceinture, t'avais un des frangins avec le titre autour du cou, ils sont tellement badass, les mecs.
Gangsters, là.
Ah là 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 là, venez, enfin, pour aller les chercher, il faut que ça soit difficile, là. Il faut que ça soit difficile pour aller les chercher. Donc, super. Surprenant, super, inattendu, à la fois c'est à la fois dommage et, enfin, toi, c'est tout ce contre, enfin, voilà, il y a beaucoup de contradictions dans cet épisode de SmackDown. On se dit, ouais, ok, c'est cool, mais en fait, ils auraient pu s'y prendre tellement autrement qu'on n'aurait pas dû en arriver là pour relancer, enfin, toi, pour toujours s'intéresser à cette division tag team. Mais en même temps, on est content parce qu'ils l'ont fait. Toi, ils n'ont pas attendu après WrestleMania, ils y sont allés, ils nous ont pris par surprise. Et franchement, c'est 15 minutes où juste, enfin, moi, j'ai kiffé, j'étais debout, quoi.
Ah ouais, complètement.
Et je m'y attendais tellement pas. Ils ont fait, pour moi, c'est le hold-up de la soirée. Et,
exactement.
Et je suis ravi, en plus, les Ouzo, vraiment, ils sont super. Et voilà. Bon, voilà. Moi, bravo.
Tout ému, il est tout ému.
Chapeau. Non, oui, parce que voilà, j'avais fait mon deuil.
Je suis très content,
la semaine dernière, j'étais là, bon, bah, laisse tomber, disons, tag team, c'est mort. Alors que, on a effectivement, comme quoi, à Ketchup Pro, ils disent pas que des conneries. On a, on a probablement la meilleure division tag team à l'heure actuelle par rapport à Raw. Peut-être pas par rapport à NXT, mais en tout cas par rapport à Raw. En termes de potentiel, en termes de vraies équipes qui sont solides, qui durent, etc. Mais on n'en fait rien. Et même ceux qui sont au-dessus, donc les Ouzo qui doivent être là pour emmener tout le monde vers le haut. Ils en font rien parce que bon, il y a la blessure, etc. Mais et l'American Alpha, ils sont restés en stand-by, on les a même pas vus. Là, c'est bon, on y va. Donc vraiment un super moment. Vous aurez donc deviné quel sera mon top de la soirée.
Oui.
Justement, on parle de top, de flop. C'est le moment, pas l'heure. C'est l'heure du moment du mot de la fin. Giscal, donc ta note, ton top et ton flop pour cette soirée à 10 jours, hein, si je dis pas de bêtises.
C'est ça. Ouais, bah c'est de toute façon nos auditeurs découvriront ce podcast soit juste avant le week-end, soit pendant le week-end. Et sachez que WrestleMania, ce sera le week-end d'après. Donc,
dans 10 jours.
10 jours déjà. Écoute, mon top, je vais te laisser l'insigne honneur de parler des American Alpha. Et je vais, moi, donner mon top. Je l'ai mentionné pendant la soirée. Je voudrais tirer un petit coup de chapeau à Breezy, Bella et Fandango.
Ah oui, c'est bien. C'est mérité.
Je trouve que subrepticement dans cet épisode, ils ont su tirer leur épingle du jeu et envoyer un message d'une certaine façon, parce que c'est une équipe qui, mine de rien, a un gimmick quand même terriblement casse-gueule, mais qui continue à faire son petit bonhomme de chemin depuis plusieurs mois maintenant et qui est assez solide dans le ring, qui sont capables de transformer des segments improbables et des trucs vraiment vraiment pourris en vrai divertissement.
C'est ce qu'on dit toujours.
J'espère que ce sont des petits segments qui seront remarqués par le management et qui feront que
plus tard, c'est sûr.
Ils auront peut-être des occasions de briller, parce que c'était vraiment c'était encore une fois du bon boulot. Mon flop, je vais le donner à qui? Je vais le donner aux filles cette semaine. On en a pas parlé, et d'ailleurs je m'étendrai pas plus sur la question.
On en a pas discuté
parce qu'il y avait rien à dire. Mais voilà, pour l'effet shaker des filles, quoi. C'est vraiment du booking de branleur, ça. Donc voilà, je ne sers à rien d'en dire plus. Et sur ma note, je vais donner 3,5 parce que toutes les histoires avancent. Mais on reste quand même un petit peu en retrait niveau catch, parce que c'est la période qui veut ça, on le sait. Et puis pour les limites, hein, pour les petits griefs que j'ai donné pour l'histoire qui est censée être l'histoire du main event de SmackDown, qui s'essouffle un petit peu, quoi qu'on puisse en dire de positif, s'essouffle un petit peu pour des raisons de timing qui, je trouve, auraient pu être anticipées. Donc voilà.
Ouais, ça, c'est sûr, de timing, on en a plusieurs fois parlé, hein. On avait l'impression que tout basculait. Enfin, effectivement, je suis d'accord avec toi, une gestion du temps un peu étrange. Écoute, je te rejoins sur le flop. Franchement, j'en ai pas vraiment vu d'autres. La division féminine, Et donc mon top, bah voilà, hein, les Ouzo, le match American Alpha Ouzo, un super match, la surprise, voilà, on vient d'en parler, je vais pas m'étendre là-dessus. Et ma note, eh ben c'est la même que Monsieur Giscard.
Ah bah voilà.
C'est voilà,
ah bah
c'est, voilà. 3, c'est 3,5, c'est 3,5.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Écoute, pour plus ou moins les mêmes raisons que toi. Je vous rappelle, oui.
Attends, j'en profite parce que c'est vrai que sinon je vais oublier et on a 2 minutes. Je rebondis.
Oui,
sur
on a 2 minutes.
Je rebondis sur ton top pour mentionner quand même que grâce à cette victoire, les Ouzo sont la première équipe à être champion par équipe de SmackDown et ancien champion. Alors, c'était pas la ceinture d'Euro à l'époque, c'était la ceinture tag team. Mais donc, c'est la première équipe à avoir ces deux ceintures. Et la fin du règne des American Alpha marque également la fin du dernier règne qui avait commencé avant 2017, toutes ceintures confondues. Donc, nous n'avons à la WWE maintenant que des champions fraîchement couronnés de moins de 3 mois en 2017.
Oui, tu disais que seul Asuka fait exception à NXT.
Seul Asuka à NXT fait une exception, mais sinon à Raw et SmackDown,
on mène roster, ouais.
Intercontinental, femme.
C'est
tout,
intéressant hein, parce que c'est vraiment nous. Enfin. Fresh start, quoi, nouveau départ.
Ouais, et c'est marrant de voir que dans cette road to WrestleMania, nous n'avons que des jeunes champions, quoi, on va dire.
Ouais.
Bah, pas ça, c'est. Par l'âge. Hein.
Ouais, c'est intéressant de se dire qu'effectivement, c'est aussi une bonne illustration pour montrer que WrestleMania n'est plus ou n'est pas, je sais pas si ça. Peut-être que ça l'a été par le passé, mais n'est pas cette. Ce moment dans l'année où tout se résout enfin, qui vient clôturer des histoires longues et des rivalités intenses qui auront pris racine depuis. Alors, effectivement, il y en a. Enfin, on va pas dire que Randy Orton versus Bray Wyatt, c'est pas une histoire qui dure. Ça se relie des Triple H. Mais il y a quand même aussi, c'est aussi l'occasion de relancer ou de lancer des nouvelles choses hein, parce qu'on est quand même au début de plein de rivalités. Alors parfois c'est des rivalités qui vont durer le temps de d'un match quoi hein, donc
oui.
Mais voilà, il y a de tout en fait dans WrestleMania, il y a tellement de tout qu'on a, tu disais tout à l'heure, il y a 12 matchs.
Je sais pas comment on va faire mais bon.
Donc je rappelle à tout le monde que vous pouvez nous suivre hein, évidemment sur iTunes et PodCloud pour l'audio, sur YouTube pour la vidéo, sur Twitter et Facebook Catchup CDC. Également hein, vous pouvez nous retrouver sur les cahiers du catch.com, sur le forum pour discuter avec nous et lire tous les articles en lien avec la route à WrestleMania. N'hésitez pas à commenter, partager, noter, pousser cet épisode, le supplément SmackDown. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le Go Home Show de SmackDown. et puis après, monsieur, c'est WrestleMania. On y est. Merci Giscard, merci à toi.
Merci
à tous nos auditrices et nos auditeurs et rendez-vous à la semaine prochaine. Salut.
Merde, j'ai fait une tache de porridge.